If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1 et on va évidemment parler du remplacement de Nyck de Vries par Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. La formation est tombée quelques heures après l'enregistrement du podcast la semaine dernière, donc on va y revenir en essayant de se projeter un petit peu maintenant que forcément on connaît l'annonce. Sur ce que ça peut réserver à l'avenir. On va aussi évoquer le marché des transferts qui s'est agité déjà depuis quelques semaines. Puis forcément, le départ de Nyck de Vries et le retour dans le jeu de Daniel Ricciardo, ça va donner encore plus d'idées à tous les observateurs, dont Julien Pereira qui me rejoint aujourd'hui. Bonjour Julien.
Salut Gilles.
Bon, toi aussi, ça t'a donné des idées, ce retour de Daniel Ricciardo ?
Beaucoup. Wow. Je suis très inspiré par ce retour de Daniel.
Magnifique, on en parlera. Puis on va aussi évoquer les enjeux de ce Grand Prix de Hongrie qui va se dérouler le week-end prochain avec une bagarre pour le second rôle. Au cinéma, on sait que c'est quand même des rôles importants que les seconds rôles. On verra qui peut prétendre à ce second rôle du côté du Hungaroring. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute aujourd'hui les fous du volant en évoquant donc la décision du staff de chez Red Bull de se débarrasser de Nyck de Vries et de le remplacer par Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Julien, j'ai envie de te dire que déjà je trouve ça un petit peu prématuré maintenant, 10 Grands Prix, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu la moitié de la saison ? Mais en fait c'est la logique de l'illogique, parce que pour moi c'était déjà incohérent d'envoyer Nyck de Vries chez AlphaTauri. Il arrive, il a 28 ans, alors que AlphaTauri c'est quand même censé être l'équipe junior de chez Red Bull. C'est un pilote Mercedes qui arrive dans une filière Red Bull, là aussi incohérence. Et puis finalement, on s'en débarrasse au bout de 10 Grands Prix. C'est presque cruel, c'est la loi du genre. J'ai envie de te dire, c'est quoi l'intérêt de Red Bull de faire ça aujourd'hui ?
Alors déjà, sur la forme, je pense que c'est une cruauté qui est très propre à Red Bull, à Helmut Marko aussi, qui s'est expliqué à des confrères néerlandais de Telegraph en disant, écoutez, De Vries était tout simplement pas assez rapide, il y avait 3 dixièmes de différence avec Tsunoda. C'est un constat qu'on a fait quasiment sur tous les Grands Prix, alors pourquoi attendre plus longtemps ? Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, je pense que la situation a quand même beaucoup changé depuis un an, même plusieurs mois, remontons au moment où Red Bull a acté le fait que De Vries occuperait le deuxième baquet chez AlphaTauri. Parce que, premièrement, il y a eu de gros doutes autour de l'avenir de l'écurie en elle-même. Il y avait des vraies questions aussi sur les pilotes qu'avait à disposition Red Bull à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On va y revenir juste après, je pense. Donc, je pense que cette conjoncture-là a précipité les choses, malheureusement, pour De Vries. Et puis, Ricciardo a quand même des arguments à faire valoir à ce moment-là de la saison.
Alors Daniel Ricciardo, il a des arguments à faire valoir. On va plutôt dire que c'est surtout les difficultés de Nyck de Vries qui ont alimenté un petit peu le moulin de Daniel Ricciardo. Parce qu'effectivement, Nyck de Vries, il n'a jamais véritablement trouvé le mode d'emploi de cette AlphaTauri qui est quand même qui a l'air quand même bien compliqué parce que on voit que Yuki Tsunoda, même s'il avait bien progressé au cours de sa deuxième saison l'année dernière, on se souvient qu'il se faisait quand même pas mal malmener par Pierre Gasly. Et puis à la fin de la saison, il tenait la dragée haute aux Français. Là, maintenant, on a vu que finalement De Vries a jamais été au niveau de Yuki Tsunoda. C'est peut-être aussi une façon pour Red Bull, et ben justement de jauger un petit peu ce que vaut Yuki Tsunoda et de jauger ce que vaut cette voiture, parce qu'on n'en sait trop rien. On sait que Red Bull va vouloir reprendre la maîtrise technique de la conception de l'AlphaTauri pour la saison prochaine. Ben, faut savoir ce que vaut finalement la base de cette auto.
Ouais, mais ce que tu viens d'évoquer, je pense que c'est vraiment le critère principal du retour de Ricciardo, c'est vraiment de mettre un pilote expérimenté aux côtés de Tsunoda et vraiment de jauger son niveau pour savoir s'il a le potentiel pour être promu chez Red Bull, tout simplement, parce que on sait que Perez est quand même en danger, même si Christian Horner et Helmut Marko disent le contraire pour le moment, mais Red Bull doit penser à l'avenir et il y a plusieurs pilotes qui sont des candidats à court ou à moyen terme. On sait que Lawson fait de belles choses en Super Formula, on sait que Tsunoda est un candidat. On sait aussi qu'il est lié à Honda et que avec l'arrivée d'Honda, enfin le retour d'Honda plutôt avec Aston Martin en 2026, bon, on n'est pas sûr de pouvoir le retenir. Il y a Iwasa aussi. Bref, on a l'intention de jauger tout le monde. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. On va utiliser Ricciardo pour jauger Tsunoda. On va aussi utiliser Tsunoda pour jauger Ricciardo.
Ouais.
Donc vraiment, Red Bull avait beaucoup d'intérêt à effectuer ce changement-là. Et puis, il y a aussi les intérêts économiques parce que Ricciardo, c'est une vraie valeur marchande, en tout cas, c'est une vraie vitrine pour les sponsors. Et que, alors qu'AlphaTauri va être rebrandé, pour utiliser un terme bien français, la saison prochaine, bah, ça compte quand même d'avoir un pilote qui a une vraie puissance marketing.
C'est sûr. Alors, dans mon esprit, c'est une super opportunité pour Yuki Tsunoda, paradoxalement, parce qu'il va se retrouver effectivement face à un garçon qui a gagné des grands prix. S'il arrive à garder l'avantage par rapport à Daniel Ricciardo, là, clairement, ça va lui donner une assise, alors que tu n'as rien à gagner quand tu as un Nick De Vries qui arrive en tant que rookie de 28 ans. Tu es meilleur que lui, bah, c'est évident, on va te dire heureusement. Et la voiture ne te laisse pas la possibilité de faire de bonnes performances, donc finalement, tu n'as rien à gagner, sauf à faire venir un nouveau pilote, comme c'est le cas avec Daniel Ricciardo, et finalement à éveiller un petit peu l'intérêt chez... Alors, pas chez Red Bull, c'est là que c'est particulier, c'est que pour moi, l'avenir de Tsunoda chez Red Bull, il est barré de toute façon, parce que c'est un pilote Honda qui est dans l'équipe Red Bull. Et on sait que Honda n'équipera plus, déjà n'équipe plus officiellement Red Bull, mais Honda va être associé à Aston Martin à l'avenir. Donc c'est peut-être là qu'on va regarder le plus les performances de Yuki Tsunoda. Ça va mettre la pression aussi sur Sergio Perez, parce que lui qui est en difficulté, ben, il faut renouveler son contrat. Forcément, les prétentions seront un petit peu moindres s'il y a un Daniel Ricciardo qui peut faire du bon travail dans l'AlphaTauri. On va dire, calme-toi un petit peu, Sergio, parce que sinon, on fait revenir Daniel. Donc, ça peut aussi être une situation un petit peu particulière pour Sergio Perez.
Mais c'est de toute façon l'objectif unique de Daniel Ricciardo, c'est d'être promu à terme chez Red Bull, puisque il y a quelques mois, il a refusé un baquet qui était sur le papier meilleur que celui d'AlphaTauri, à savoir Haas.
Ouais.
Et donc, s'il a choisi de revenir sur ce principe-là, c'est uniquement parce qu'il sait qu'il y a une opportunité à saisir, que Perez est en grande difficulté. D'ailleurs, je trouve que la décla d'Horner, où il dit que les problèmes de Perez viennent à 90% de la tête, c'est déjà une menace finalement pour le Mexicain.
Ouais, ça contredit un petit peu ce que nous disait Pierre Vacher la semaine dernière, hein, où Pierre Vacher disait on l'a peut-être pas suffisamment aidé. Quelque part, il prenait un petit peu la défense, du Mexicain. Horner, il est pas trop dans cette veine-là. Hein.
Ouais. Donc oui, Ricciardo a cette opportunité à saisir, il le sait très bien. Maintenant, est-ce qu'il va en être capable? Moi, j'ai personnellement de gros doutes, et d'ailleurs, je demande qu'à être surpris, mais on a vu qu'avec McLaren, qui avait déjà des difficultés sur le plan technique similaires à l'AlphaTauri d'aujourd'hui, bah, c'était plus compliqué. Il avait été matraqué par Norris. Je crois qu'en course, c'est 31-12 sur l'ensemble de ses confrontations face à Lando Norris. Et là, mine de rien, il a, tu l'as dit, un pilote en face de lui qui a vraiment progressé, qui est très loin d'être parfait encore aujourd'hui. Mais tu l'as dit, il était revenu quand même dans le match avec Gasly à la fin de l'aventure, la fin de la saison dernière. Là, il n'y a pas photo avec De Vries. Voilà, il y a de vrais progrès. Et vraiment, c'est acquis tout double pour Ricciardo, je pense.
Oui, mais alors, en fait, je ne sais même pas si c'est acquis tout double. Parce que est-ce que ça serait vraiment une bonne affaire de retourner chez Red Bull ? Admettons que tout se passe bien. Il est meilleur que Tsunoda. Il fait du très bon travail. Et à la fin de la saison, on lui dit « Ok, tu rejoins l'équipe Red Bull. Tu te retrouves aux côtés d'un garçon qui sera forcément le pilote numéro 1 parce que Max Verstappen, il a à peu près 99,9% de chance d'être triple champion du monde à la fin de la saison. Et t'es numéro 2, point, c'est tout. Je vois pas Ricciardo à l'aise dans un rôle comme ça.
Ouais, c'est le paradoxe parce que finalement, il avait quitté Red Bull pour cette raison. C'est parce qu'il sentait bien que le vent avait tourné et que le seul rôle qu'il pouvait avoir chez Red Bull, c'était d'être numéro 2. Maintenant, j'ai quand même la sensation que, à son âge, c'est-à-dire à 34 ans, dans sa situation, c'est-à-dire un pilote qu'on n'imaginait pas forcément revenir aussi vite à l'instant T, bah, être numéro 2 chez Red Bull, c'est quasiment inespéré pour lui. Donc oui, les choses changent, et je pense que sur son aspect mental à lui, ça a changé aussi.
Ouais, en fait, il se retrouve dans une situation qui est un petit peu comparable à celle de Sergio Pérez quand l'aventure s'était terminée du côté de chez Force India, devenant Aston Martin. Il y a un autre élément aussi, une autre personne pour qui ça va être un vrai test, avant de conclure sur le sujet. On n'y a pas beaucoup pensé, c'est Pierre Hamelin. Qui était donc l'ingénieur de course de Pierre Gasly quand le Français était chez AlphaTauri, qui était celui de Nyck de Vries, et qui probablement, alors j'ai pas eu la confirmation que ça ne bougeait pas de ce côté-là, s'il n'y a pas d'information, c'est qu'a priori ça devrait pas bouger, qui va se retrouver associé à Daniel Ricciardo et qui lui aussi va devoir quelque part faire ses preuves. Il faut s'adapter très très vite au travail avec un nouveau pilote, beaucoup plus expérimenté que Nyck de Vries en Formule 1, hein, parce que Nyck de Vries, il ne faut pas oublier qu'il a une énorme expérience en dehors de la Formule 1. Mais forcément, il va y avoir une sorte de confrontation aussi avec son alter ego qui s'occupe de Yuki Tsunoda. C'est Mathias Pini qui est l'ingénieur de Yuki Tsunoda. Il va y avoir un petit peu de pression sur l'ingénieur français aussi.
Oui, parce que Red Bull a beau être cruel, il y a aussi une vérité, c'est que les meilleurs finissent toujours par être promus au meilleur poste. Et donc, ça vaut pour les pilotes, évidemment, mais ça vaut aussi pour les ingénieurs, pour les stratèges, etc. Donc, ça compte, effectivement.
Et si Ricciardo réussit son pari et monte chez Red Bull, est-ce qu'il emmène avec lui Pierre Hamelin ? Il y a un coup de billard à trois bandes éventuellement à jouer aussi pour l'ingénieur français.
Oui, parce que les relations sont extrêmement importantes. Et le meilleur exemple, de toute façon, c'est Verstappen, qui, même si parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de tensions entre Lambiase et lui, bah finalement, c'est la relation qui fait beaucoup dans le succès du Néerlandais. Il est le premier à le dire d'ailleurs. Donc, tout à fait.
Voilà, on verra. Mais il y a aussi un enjeu pour un tricolore dans ce retour de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. On verra s'il repose ses valises à la fin de la saison chez Red Bull. Alors évidemment, on arrive dans l'été et le marché des transferts a toujours tendance un petit peu à s'agiter en arrivant comme ça. Quand le thermomètre monte, les rumeurs se multiplient. Jap, j'ai envie qu'on évoque quand même quelques pilotes. Alors, on n'a pas trop d'informations sur le cas Lewis Hamilton, où on nous dit non, mais là, il n'y a vraiment plus que quelques détails.
Ça fait quand même 4 mois qu'on nous dit ça.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire quand même. Lewis Hamilton, il n'y a que quelques détails, mais ça doit être des détails sonnants et trébuchants parce qu'on trébuche beaucoup sur ces dernières signatures. Mais honnêtement, on ne voit pas trop comment ça pourrait bouger. Charles Leclerc, a priori, il n'y aura pas de changement. On rappelle qu'il est toujours sous contrat, mais que pour l'instant, statu quo chez Ferrari pour le Monégasque. J'ai envie qu'on parle de Lando Norris, parce que c'est celui qui a vraiment fait sensation du côté de Silverstone. Et ça s'agite un petit peu autour du Britannique. On rappelle qu'il est sous contrat avec McLaren jusqu'à la fin de la saison 2025. Personnellement, je trouve que ça serait étonnant que ça bouge maintenant. Alors que ça commence à frémir, ça commence à marcher sur la voiture. Il a fait quasiment 2 saisons de purgatoire. Est-ce que ça peut bouger ?
Ce qui est marrant, c'est que même quand McLaren était au plus bas, il continuait de dire qu'il ne regrettait pas son choix d'avoir signé un contrat long terme avec McLaren. Et que là, finalement, au moment où les choses s'améliorent, on a vu beaucoup de choses. On sait que Red Bull a discuté avec son manager. pour 2025 ou plutôt au-delà. On sait aussi que finalement c'est un pilote qui attire beaucoup beaucoup de monde pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est archi talentueux, aussi parce qu'il est beaucoup plus jeune que la génération de pilotes actuels installés chez les top teams. Et il y a quelque chose qui compte quand même par rapport à Red Bull, c'est sa relation avec Verstappen.
Ouais.
C'est l'un des rares vrais amis de Verstappen sur la grille. Ils ont plusieurs fois passé du temps ensemble, notamment en vacances. Et j'ai tendance à penser que Red Bull réfléchit sérieusement à mettre un deuxième pilote vraiment compétitif aux côtés de Verstappen parce qu'il y a des enjeux qui sont commerciaux et que Red Bull a absolument besoin de garder le titre constructeur et que, vu ce qui se passe avec la concurrence et vu ce qui se passe avec Sergio Pérez, bah, on n'est pas sûr que la formule actuelle continue de fonctionner dans les prochaines saisons, tout simplement. Donc ça ne m'étonnerait pas, finalement, que Red Bull fasse l'effort pour Norris ou pour un autre pilote aussi talentueux, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour les prochaines saisons, tout simplement. Ouais.
Alors la meilleure façon qu'il soit plus très très copain avec Max Verstappen, c'est effectivement qu'il le rejoigne chez Red Bull. Là, je pense qu'en 15 jours, c'est terminé, il ne se parle plus.
Surtout que Verstappen a du caractère, évidemment. On l'a encore vu ce week-end dans une course de sim racing.
Et oui, alors il paraît qu'il a pété un peu un plomb.
Oui, il s'est un petit peu vengé. Mais Norris aussi a beaucoup de caractère. On l'avait déjà un petit peu senti avec Ricciardo la saison dernière, donc ça peut être ça peut faire effectivement des étincelles.
Alors, ce que peut faire aussi Lando Norris, c'est patienter finalement, et ça serait sans doute le plus intéressant pour lui, aller au bout de son contrat, c'est-à-dire faire encore 2024, éventuellement aussi 2025, ouais. Parce que 2025 c'est la fin de l'année optionnelle que pourrait faire jouer Fernando Alonso chez Aston Martin. Et là, on se retrouverait dans une équipe un peu plus grosse, en tout cas avec des prétentions et des moyens financiers qui semblent quand même beaucoup plus importants que chez McLaren, ça peut être aussi une bonne filière pour Lando Norris.
Mais finalement, c'est celui qui a le mieux joué le coup sur le plan contractuel, puisque c'est l'un des seuls, alors on met Verstappen à part parce que lui, il a un contrat jusqu'en 2028, mais c'est le seul qui a négocié jusqu'en 2025, à savoir la veille de la nouvelle réglementation technique. Donc lui, il a deux possibilités, soit attendre de voir un petit peu la tendance pour 2026, soit profiter justement d'avoir beaucoup d'années de contrat pour tirer beaucoup d'argent d'un possible transfert ailleurs. Donc c'est vraiment le pilote qui a le mieux négocié, en sachant aussi que c'est, on l'a déjà dit, un pilote très jeune, un pilote très talentueux, un pilote très convoité. Donc oui, c'est celui qui risque d'avoir l'embarras du choix. Surtout par rapport à d'autres, on va en parler, par rapport à Sainz par exemple.
Ouais, mais on a vraiment le sentiment que Lando Norris, il a un rôle pivot sur le marché des transferts. Alors tout peut-être pas cet été, mais en tout cas dans là ou les prochaines saisons, c'est un pivot parce qu'on pense que ça bougera pas chez Verstappen, que ça devrait pas trop bouger chez Leclerc, et que Norris peut être un déclencheur. Tu évoquais Carlos Sainz, on va en parler parce que on sent bien que le ton est en train de monter un petit peu, que ça s'agace un petit peu. Carlos Sainz, il va rentrer dans sa dernière année de contrat au début de la saison prochaine, comme Charles Leclerc. Mais alors autant on sent que finalement, pour Charles Leclerc, ça va se renouveler gentiment avec Ferrari, autant Carlos Sainz, lui, met un petit peu la pression parce qu'il sent le coup venir. En fait, il nous l'a fait il sent le coup un petit peu. Il est dans la même situation qu'Alonso. Il sent qu'on ne veut pas lui dire non, mais qu'en même temps, on ne lui dit pas oui. Ouais. Et qu'en fait, lui, il veut savoir parce qu'il y a un deuxième coup derrière. Il y a l'arrivée de Audi. Et alors là, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Audi, c'est le groupe Volkswagen. Et il y a des grosses relations fortes depuis des années entre Carlos Sainz senior, le papa, qui a été double champion du monde des rallyes. Hein, je dis ça pour les plus jeunes de nos auditeurs, qui a gagné le Dakar, qui est un très, très grand pilote, mais qui était aussi un très, très grand politicien. Et il paraît qu'il y a des relations donc, qui se sont nouées entre le clan Sainz et Volkswagen. Parce que Volkswagen, on rappelle, avec Audi, va arriver en 2026.
Oui, c'est ça. Alors, c'est effectivement, il y a de la politique derrière tout ça. On sait que Papa Sainz joue un rôle quand même important. Alors, c'est pas comparable à Stroll, hein, mais disons qu'en termes de plutôt de gestion, d'expérience, il partage beaucoup de choses avec son fils. Et finalement, ce baquet Audi, ça peut être un pari aussi intéressant parce que effectivement, vous pouvez accepter de faire une ou deux années de purgatoire avec ce qui sera Sauber, avec le retrait d'Alfa Romeo en fin de saison. pour, pourquoi pas, vous retrouver dans une écurie qui sera puissante, avec de gros moyens. C'est un petit peu le pari qu'avait fait Hamilton avec Mercedes, finalement, il y a une dizaine d'années. Un petit peu plus que ça, même, d'ailleurs, maintenant. Donc voilà, c'est un pari qui peut être intéressant. Et si il y a un pilote qui pourrait avoir plus de relations avec, avec le constructeur, c'est effectivement Carlos Sainz, parce que son papa a un rôle, quand même, pas d'ambassadeur officiel, mais en tout cas, de vrai lien avec, avec le groupe Volkswagen, par contre.
Alors, c'est une hypothèse qu'on entend beaucoup, et j'ai du mal à y croire, honnêtement, parce que Carlos Sainz, il faut quand même se souvenir, il s'est fait rudoyer sérieusement par Lando Norris quand il était avec le Britannique chez McLaren. Il a fait des choses intéressantes, mais quand même, il est un petit peu en retrait par rapport à Charles Leclerc chez Ferrari. Et que le projet Audi, il est maintenant mené par Andreas Seidel. Et Seidel, il ne veut qu'une chose, c'est faire venir Lando Norris. On en reparle de Lando Norris. C'est ramener Lando Norris à la fin de son contrat chez McLaren. Je vois pas trop où on peut mettre Carlos Sainz dans cette équation, honnêtement.
Oui, et en plus, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, son âge. Il aura 30 ans en 2026, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui.
Aussi, on peut le dire, son comportement qui...
31 même, d'ailleurs.
31, peut-être, oui. Son comportement qui, disons-le, n'est pas irréprochable. Il y a certaines choses qui agacent, y compris au sein de chez Ferrari. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui aussi s'est agacé de cette rumeur-là. On lui avait déjà posé la question en conférence de presse il y a plusieurs semaines. C'était au printemps, si je ne dis pas de bêtises. Et lui s'était agacé de cette rumeur en disant « Arrêtez avec ça, je suis Ferrari, je suis très bien. » Les choses ont un petit peu tourné depuis. Ouais. On a aussi vu des petits débuts de tension, même si ce n'est pas hyper marqué entre Sainz et Leclerc. Et finalement, tout ça, ça compte dans son avenir parce que on sait toujours pas... Quel est le potentiel ? On ne sait toujours pas si Sainz a atteint finalement le maximum de son potentiel ou s'il est encore capable d'augmenter son niveau de performance. Donc ça compte et je pense, pour prendre le point de vue d'Audi, je pense que l'intérêt pour une écurie, un constructeur qui arrive, c'est de prendre un pilote qui est d'une part jeune, qui est vraiment talentueux et qui pourra incarner la marque pour plusieurs saisons. Et j'avoue que je ne vois pas Sainz dans ce rôle-là, tout simplement.
Non, pas vraiment. C'est vrai. Alors, on verra. Il paraît que le projet Audi est un petit peu plus compliqué. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on est confronté à quelques difficultés. On a nommé aussi Neil Gianni, hein, qui est un pilote suisse qui a gagné les 24 heures du Mans, qui est un ancien pilote Porsche. Porsche fait venir beaucoup de monde, hein, Andreas Seidel, tout ça. On va voir ce que ça va donner du côté de chez Audi. Il y a un profil aussi qu'on voudrait évoquer sur... dont on parle pas mal, c'est Alexander Albon, qui s'illustre régulièrement au volant de la Williams. Alors lui, c'est pareil, hein, apparemment, il a été contacté pour rejoindre l'équipe Red Bull, éventuellement à la place de Sergio Perez. Bon, il a dit clairement, non, merci, c'est bon, j'ai donné.
il a vu l'expérience, il s'est dit, je vais peut-être pas recommencer. Non, mais Albon, c'est intéressant parce qu'il a énormément progressé, à la fois sur le plan technique, on l'a vu depuis le début de la saison. Honnêtement, il pilote très au-dessus de ce que sa machine propose, même si la Williams, elle aussi, a progressé. Et puis, je pense que sur le plan de la préparation physique, mentale aussi, il a vraiment franchi un cap. Albon, il a aussi une carte à jouer, c'est qu'il a une vraie valeur marketing parce qu'il a des origines thaïlandaises et que bah, l'exposition en Asie, ça compte aussi pour les constructeurs. Et puis, finalement... Au contraire de Sainz, c'est un pilote qui ne fait pas de vagues, c'est un pilote sérieux, c'est un pilote qui fait de bons retours. Et tout ça, ça intéresse aussi les écuries. Je pense que Red Bull peut avoir de petits regrets avec lui et je pense que un Toto Wolff ou même chez Ferrari, pourquoi pas, même si j'y crois pas trop.
Parce qu'on en a parlé, hein, d'ailleurs, d'une éventuelle connexion entre Fred Vasseur et Alexander Albon, oui. Puisqu'il a roulé chez Art Grand
tout
Prix.
À fait. Mais d'ailleurs, on en parlait déjà à l'époque où Vasseur était encore chez Alfa Romeo. Alors, il avait dit à l'époque qu'attirer un pilote comme Albon, c'était tout simplement pas dans les cordes d'Alfa Romeo. Là, évidemment, Ferrari a beaucoup plus de moyens de
convaincre. Les cordes sont plus grosses.
Tout à fait, beaucoup plus de moyens de convaincre Albon. Et ça peut être intéressant pour la Scuderia aussi parce que les relations entre Leclerc et Albon sont beaucoup plus fluides qu'entre Leclerc et Sainz, tout simplement. Et ça compte.
Ouais, on verra ce que ça va donner pour Alexander Albon. On va voir comment il s'en sort déjà sur ce Grand Prix de Hongrie qui n'est pas tout à fait
le même genre
que le circuit de Silverstone. Ce circuit, justement, de Budapest, on va en parler puisque il va accueillir ce qui sera donc la 11e manche du championnat du monde de cette saison 2023 avec un Grand Prix où, encore une fois, on va avoir un Max Verstappen et une Red Bull archi favoris. Et les autres, on va se battre pour la deuxième place. On s'est permis de faire un petit classement sur les deux derniers Grands Prix, classement des constructeurs. Alors évidemment, Red Bull caracole en tête, hein, 90 points collectés par les hommes de Christian Horner sur les deux derniers Grands Prix. Et derrière,
dont 92 par Max Verstappen.
92 sur 90, ah oui, ça fait beaucoup. McLaren, deuxième équipe hein, sur les deux derniers Grands Prix avec un total de 42 points. Ensuite, on a Mercedes. Ferrari avec 36 et 35 points. On voit que c'est très très serré entre ces trois équipes. Aston Martin qui a fait un petit pas en retrait avec 27 points marqués sur les deux derniers Grands Prix. Et puis derrière, c'est très très loin. Williams a marqué 4 points. Alpine et Haas en ont marqué 3. Alors c'est intéressant parce que finalement, on voit que c'est assez serré avec McLaren, Mercedes, Ferrari et dans une moindre mesure Aston Martin. Et ça conforte Toto Wolff qui dit non, mais le nouveau règlement, il est bon. Il y a juste un problème Verstappen, Red Bull, qui est largement au-dessus du lot. Il n'a pas tort là-dessus, le patron de Mercedes.
Oui, non, tout à fait. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que Red Bull annonce des évolutions pour ce Grand Prix en fin de semaine, annonce de vrais changements sur ses pontons. Alors que c'est justement ce que toutes les écuries cherchent à copier. et annonce aussi, alors ça c'est beaucoup plus à relativiser, mais un progrès de 2 dixièmes par tour. Encore une fois, les simulateurs ne disent pas toujours la même chose que la piste, mais Red Bull pourrait vraiment assommer encore plus la concurrence ce week-end, alors que la concurrence, elle, pourrait être une nouvelle fois dans un vrai mouchoir de poche, en tout cas de ce qu'on a vu à la fois sur les derniers Grands Prix et aussi sur les évolutions attendues en fin de semaine.
Alors justement, les évolutions les plus spectaculaires qu'on a vues ces dernières semaines, c'était du côté de chez McLaren, hein, où la voiture a été littéralement métamorphosée. On en a parlé la semaine dernière avec Stéphane Vrignot de McLaren, qui était peut-être devenue la deuxième force du plateau. Ça a bien fonctionné à Spielberg, à Silverstone, qui sont des circuits avec des courbes très très rapides. Si ça fonctionne à Budapest, là, c'est même plus le deuxième rôle sur la deuxième moitié de saison. Ça va peut-être devenir la voiture à battre sur la deuxième partie du championnat.
Ouais, c'est vraiment le test ultime pour McLaren parce que son grand défaut, jusqu'à présent en tout cas, c'était justement les virages lents. Ça tombe bien, à Hongrie, il n'y a quasiment que ça. Et que si toutes les évolutions qui ont été apportées depuis quelques semaines fonctionnent aussi en Hongrie, et en tout cas McLaren a priori assez confiante sur ce point, McLaren risque de devenir tout simplement la deuxième force du plateau jusqu'à la fin de saison. Alors, une deuxième force qui n'aura pas une marge folle non plus sur la concurrence, mais en tout cas, ça dira beaucoup de choses sur les évolutions et sur les progrès réalisés par McLaren. Sachant que pour les autres écuries, c'est un petit peu plus brumeux, on va dire.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, si on prend dans l'ordre, Aston. Bon, c'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre que j'avais prévu d'évoquer. C'est dans mon ordre. Aston Martin, avec cette déclaration d'Alonso, on se souvient, il y a quelques mois, hein, il disait Monaco, Budapest et Singapour. Monaco, ça l'a pas fait pour aller chercher une victoire. Est-ce que ça peut le faire en Hongrie, sachant que Aston Martin a quand même été un petit peu en retrait par rapport à ce dont il nous avait habitué, à ce à quoi il nous avait habitué depuis le début de la saison?
Ouais, c'est ce qui est intéressant parce que Monaco, ça a pas fonctionné, mais c'est quand même pas passé loin. Notamment en qualification, s'il y a ces quelques millièmes en plus en faveur d'Alonso, ça peut changer complètement la physionomie de la course le dimanche. Et là, on se dit que c'est plus la même histoire. Et effectivement, Aston Martin, au contraire de McLaren, son gros point fort, c'est justement les virages lents. Et c'est quelque chose que ne cesse de répéter Hamilton à chaque fois qu'il est derrière une Aston Martin, c'est ce train arrière est absolument exceptionnel. Donc là, Aston Martin, qui est un petit peu plus en retrait sur les dernières courses, peut soudainement rebondir, redevenir un vrai outsider en Hongrie. Et c'est ça qui est intéressant.
Ah, le problème pour Alonso, c'est que non seulement maintenant il doit battre Verstappen, mais on a le sentiment qu'il faut presque maintenant y ajouter Norris.
Oui, c'est ce qui est plaisant pour nous en tant que en tant que spectateur observateur, c'est qu'on a vraiment un nivellement et on voit qu'en fonction des circuits, tout peut tourner. On peut évoquer aussi Mercedes, qui assure que son nouvel aileron avant, a un impact assez important sur le train arrière aussi de Mercedes, qui pour le coup, lui, est désastreux et qui pose beaucoup de problèmes à Lewis Hamilton. Et donc, on voit aussi ce Grand Prix de Hongrie comme un vrai test pour confirmer ou non les progrès réalisés avec cet aileron avant. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la fin de semaine.
Ouais, il y a de la pression chez Mercedes. Il y en a aussi chez Ferrari, avec des propos de Fred Vasseur, qui était, j'ai trouvé, très très honnête après le Grand Prix à Silverstone. Il a dit, chez nos confrères de Canal+, il a dit, on a tout fait à l'envers. Avant la safety car, on était 5e et 6e, et on se retrouve 9e et 11e. Il a parlé d'un manque d'ambition, Fred Vasseur. Ah, il faut se rattraper là chez Ferrari.
Oui, alors je suis d'accord. Évidemment que Ferrari s'est trompé sur la stratégie à Silverstone. Moi, je n'ai pas la sensation qu'en termes de performance, ils étaient vraiment au niveau, ne serait-ce que de Mercedes. Alors, on assure du côté de la Scuderia que les problèmes sur la dégradation des pneumatiques et tout ce flou qu'il y a autour de cette gestion pneumatique chez la Scuderia a été résolu. J'attends de voir. En tout cas, justement, encore une fois, le Grand Prix de Hongrie sera un très bon test sur ce plan. Et finalement, Ferrari, parmi toutes ces écuries, c'est peut-être celle qui est le plus attendue et qui part du plus loin, tout simplement.
On peut aller encore plus loin on cherche. On va parler d'Alpine. On faisait ce classement là avec 3 points marqués par la firme française sur les 2 derniers Grands Prix. On peut élargir sur les 4 derniers Grands Prix, 12 points inscrits par Alpine. On va arriver sur un circuit qui a amené un des derniers énormes temps forts. C'était la victoire de Esteban Ocon et c'est la seule victoire sous l'appellation Alpine en Formule 1. Ça peut être déjà un Grand Prix critique pour les Bleus ?
Je dirais oui, parce qu'on a l'impression qu'Alpine est encore embourbée dans des problèmes structurels. On a vu qu'il y avait du changement dans l'organigramme avec Famin. On voit que certains process plutôt ne fonctionnent toujours pas. Et il y a aussi des questions sur la fiabilité. Et le problème, c'est que la plupart des autres écuries qu'on vient d'évoquer n'ont plus problème de fiabilité. Donc oui, il y a un gros retard à combler et je trouve que c'est un petit peu inquiétant pour Alpine.
Ouais, là, il y a pour le coup pas mal de pression sur les pilotes français et l'ensemble de cette équipe Alpine qui va devoir essayer de se rappeler de bons souvenirs sur le circuit du Hungaroring où Esteban Ocon s'était imposé. Évidemment, vous allez le suivre, ce Grand Prix de Hongrie. Je vais vous donner les horaires. Les essais libres 1, vendredi à 13h30. La deuxième séance d'essais libres sera à 17h. Samedi, essais libres 3 à 12h30. Et la qualification sera à 16h. Le Grand Prix, lui, évidemment, dimanche à 15h. Ça va en faire des choses intéressantes à suivre. J'ai pas regardé exactement, je vais te poser une colle, j'ai pas regardé exactement les conditions météo annoncées du côté du Hungaroring pour le week-end prochain. Mais ça, on sait que du côté de la Hongrie, ça peut être assez compliqué aussi quand on arrive au cœur de l'été.
C'est beau, il fait de la météo en direct.
Ça va être compliqué. On risque d'avoir des qualifications assez amusantes avec un petit peu de pluie samedi après-midi. Ça peut nous donner une grille de départ plutôt rigolote. Et normalement, ça devrait être sec dimanche.
Et bien évidemment, ça ne changera absolument rien pour Max Verstappen.
Allez, on va voir. C'est clair que il est quand même phénoménal parce que même si on peut imaginer que la voiture est quand même ultra performante, quand on voit un Sergio Pérez dans les difficultés qu'il connaît, faut bien reconnaître que c'est lui qui fait la différence en ce moment. Ça serait bien quand même une petite qualification un peu compliquée pour Max Verstappen et un départ un peu plus loin sur la grille.
Ça changerait, ouais.
ça nous donnerait un Grand Prix avec une effervescence. Bon, la Hongrie, ces dernières années, quand même,
c'est pas mal.
On a eu quelques scénarios. Il faudra voir où est Bottas. Premier virage, ça peut parfois donner du piquant. Ben, je crois qu'on a tout dit, mon cher Julien. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler. Bah, justement, on fera le compte-rendu. C'est toi qui vas couvrir ce Grand Prix de
Hongrie. Ce week-end, c'est moi. Et lundi prochain, je crois que ce sera Stéphane avec toi.
D'accord, magnifique. Voilà, en tout cas, tous les résultats, toutes les analyses sur le circuit. Sur le circuit. Bon, si, sur le circuit Eurosport.fr. Ça sera pas mal. Ce podcast, lui, est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Si vous faites un tour du côté de Budapest, n'hésitez pas à aller acheter du chocolat. Il y a du très très bon chocolat, des tablettes de chocolat Tibi à Budapest.
Quand je vous dis qu'il est multifonction.
Ah non, mais on est preneurs. N'hésitez pas à nous envoyer... À nous envoyer des photos avec ce.
Ou du chocolat.
Ouais, ou du chocolat carrément. Pas de soucis. Bon, allez, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, et en attendant,
on coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.